enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce soir, je vais commencer un nouveau sujet. Et on va parler donc de la fin des temps pendant des plusieurs mois, semaine après semaine. Donc ce soir, je vais faire juste une introduction. Mais je vous invite à amener vos amis. Parce que c'est un sujet qui est très important. C'est sûr que nous n'avons pas à en faire, je dirais, une doctrine où nous en parlons constamment à l'église. Mais il est très important de connaître cette doctrine. Vous voyez, nous avions vu la croix avant. Et la croix, c'est quelque chose d'absolument personnel, d'indispensable, d'une fondation absolument indispensable. Qu'il faut avoir la profondeur de la croix, la profondeur de ce que Jésus a vraiment réalisé à la croix. Ça fait partie vraiment des pierres de fondation d'un chrétien né de nouveau. Et il y a d'autres sujets que nous devons aborder qui sont des sujets qui sont importants que nous devons connaître, et ça s'appelle entre autres l'eschatologie. En tout cas, c'est le sujet qu'on va étudier, c'est un de ces sujets qui fait partie des fondations aussi. Donc l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Bible est aussi un livre prophétique. Vous savez, la Bible nous dit des choses qui se sont passées, des choses qui se passent, qui sont actuelles pour nous, mais aussi des choses qui se passeront dans le futur. Et c'est pour ça que nous devons apprendre qu'est-ce que la Bible dit à propos du futur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions, qui disent oui, on entend ça à droite, à gauche, aux informations. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah, j'ai lu tel verset. La Bible dit ça. Est-ce que c'est pour nous maintenant, etc., etc. Il y a aussi tout un tas de gens qui prennent des versets et prophétiquement parlant, qui les appliquent n'importe comment, qui les sortent de leur contexte, etc. Et ceci pose beaucoup de problèmes parce qu'on a vu vraiment des farfelus dire tout et n'importe quoi. Il faut le dire, même à partir du pupitre, il y a des choses qui ont été enseignées ou prêchées qui étaient fausses. Et puis nous avons aussi affaire à des fausses doctrines ou à des sectes. Entre autres, il y a une secte qui enseigne beaucoup là-dessus, sur la fin des temps. C'est vraiment le mot secte était utilisé, pas seulement dini. C'est vraiment bon. Les témoins de Jéhovah sont spécialistes dans ce genre de trucs et à tordre les Écritures. Et il y a d'autres groupes aussi qui ont complètement exagéré, entre autres certains enseignements de Branham parmi les Branhamistes qui sont encore enseignés aujourd'hui et qui sont absolument complètement faux. Et pourtant la Bible va nous révéler des choses extraordinaires sur des mystères, c'est-à-dire des connaissances cachées que Dieu révèle à nous, l'Église, comme nous le verrons, qui n'ont jamais été révélés dans les temps avant l'Église. Quelque chose de très spécial que Dieu nous montre à nous, l'Église de Dieu. Et bien sûr, nous avons besoin du Saint-Esprit pour donner des interprétations afin que vraiment nous puissions savoir ce que la Bible dit et ce que la Bible ne dit pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des périodes prophétiques qui sont déterminés à l'avance par Dieu, qui se produiront selon sa souveraineté. C'est-à-dire que Dieu a déterminé d'avance ce qui allait se passer et personne ne pourra jamais le changer. Ce qui est écrit dans ce livre, la parole de Dieu, c'est écrit et rien ne changera ce qui est écrit. Dieu nous a laissé sa parole. Il a annoncé d'avance un certain nombre d'événements. Ces événements se passeront, quoi qu'il en soit. Rien ne changera ces choses. Nous ne pouvons pas changer ces choses. Le diable ne pourra jamais changer ces choses. Les anges ne pourront jamais changer ces choses. Et Dieu ne changera pas non plus. Parce qu'il est l'Éternel, il ne change pas. Il a annoncé d'avance ces événements. Et ils se produiront. Ils se produiront. Alors nous allons voir qu'il y a des périodes que la parole de Dieu appelle dispensation.
Et
qu'on verra en fait que ce sont des périodes que Dieu a prédéterminées. Certaines se sont déjà passées. Nous en sommes dans une actuellement. Et il va y en avoir d'autres qui vont venir après nous. Donc il faut faire attention parce que la Bible nous montre certaines choses sur ces dispensations. Et Dieu les contrôle et les a contrôlés parfaitement. Et la suite qui va se passer, Dieu l'a prévu d'avance et elle se passera. Donc nous verrons des généralités, ce qu'on appelle sur les sept dispensations. Je vais introduire pour certains d'entre vous des notions nouvelles, mais vous avez besoin de cela dans votre vie spirituelle. Parce que ce sont des prophéties bibliques. Certaines personnes sont effrayées de lire l'Apocalypse parce qu'ils disent je ne comprends rien. D'autres sont effrayés de lire le livre de Daniel parce qu'ils disent mais je ne comprends rien. D'autres lisent entre autres Matthieu 24 et 25 et disent mais oulala, est-ce que c'est pour nous? Et puis il y a toutes sortes de choses dont la Bible parle. Et en général, les gens ne veulent pas trop lire ces choses parce que soit ils ne les comprennent pas,
ou
soit cela les affole un peu trop. Dans l'autre extrémité, il y a des gens qui prennent n'importe quelle parole et l'appliquent à l'église, ce qui crée évidemment tout un tas de problèmes. Donc nous expliquerons ce que c'est que les sept dispensations en donnant bien sûr la définition du mot dispensation. Nous verrons ce que c'est que la dispensation de la grâce, qui on verra c'est la dispensation de l'église bien sûr, mais on verra pourquoi elle a été donnée. On parlera de l'enlèvement de l'église, donc de tous les événements qui font partie de l'enlèvement de l'église. Donc on parlera de la résurrection des morts, on va parler donc de la transformation des vivants, notre réunion avec lui. Puis nous parlerons du tribunal de Christ. Et pendant cette période où nous passerons devant le tribunal de Christ de récompense, et bien nous verrons que sur la terre il va y avoir une horrible période qui s'appelle la tribulation. Et il y a quand même pas mal de chapitres de la Bible qui parlent de cette période de tribulation. Donc nous allons apprendre des choses là-dessus parce qu'il faut que nous comprenions ce qui va se passer et est-ce que nous en ferons partie ou pas. Ensuite nous verrons le deuxième retour de Christ, puis ce règne de 1000 ans de Christ à Jérusalem avec ses saints, et puis toutes sortes de choses qui vont se passer aussi pendant le millénium. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Et qu'est-ce que la Bible ne dit pas à propos de ça? Et enfin, nous parlerons des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, tout un programme. Et un programme qui est très suivi parce que c'est encore une série d'enseignements. Et je vous rappelle que dans les séries d'enseignements, il
ne
faut pas venir 3 fois sur 5 ou 2 fois sur 4. Sinon, vous perdez évidemment le fil de la pensée. Et surtout que souvent, ce sont des enseignements où certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu de telles choses.
choses.
Donc c'est important de vous attacher à l'enseignement de la parole et à un enseignement suivi. Alors, on va commencer donc par les généralités, les définitions des sept dispensations. Et en fait, on va voir un petit peu ce que c'est qu'une dispensation. En fait, la Bible va nous parler, va nous montrer que Dieu marche avec des périodes de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans la parole qui va transparaître, parce que ces périodes de temps, ce sont des moments où Dieu va faire des alliances avec un ou des hommes ou un peuple. Et ces alliances vont diverger, il va y avoir différentes choses. Et on va voir que ces périodes de temps où Dieu fait alliance et donne donc des privilèges à cet homme ou ces hommes qui rentrent dans ces alliances, à ce moment-là, Dieu donnant ces privilèges, ça dure un certain temps. Et Dieu a des raisons pour cela. Et après, il change de dispensation. Et là où il fait une autre alliance. Mais vous savez, la Bible est claire. Il y a des choses qu'elle enseigne. Et c'est vrai que quand on étudie un peu tout ça au début, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer dans mon enseignement d'être assez simple, de simplifier les choses. Il y a plusieurs fois où je vous projetterai des schémas pour vous montrer ces choses, pour vous faire des résumés, pour vous aider à mieux comprendre ce qui va se passer, quelles sont ces dispensations. Alors on va regarder d'abord un texte qui se trouve dans Tite chapitre 2. Et dans Tite chapitre 2, l'apôtre Paul va nous montrer quelque chose de particulier à propos de notre espérance bienheureuse, notre espérance bénie. Au verset 11, il dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance ou l'espérance bénie et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Kuko ubuntu bw'Imana ku murongo wa 11 bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none, twitega ibyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ku ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babe icibare ciwe.
Quand on parle d'espérance, et vous nous avez souvent entendu enseigner sur la foi, nous savons que la foi c'est maintenant et que l'espérance est toujours futur. Quelque chose que j'espère, c'est pas quelque chose que je vois devant mes yeux. Sinon, je peux pas l'espérer. Si j'ai quelque chose devant mes yeux, si tu dis: ah, j'espère un jour avoir une voiture, ça veut dire qu'aujourd'hui tu l'as pas encore. Par contre, si tu as les clés de ta voiture et que tu roules dans ta voiture, tu vas pas dire à ton ami: j'espère avoir une voiture. Ou alors il va te dire: ah bon, celle que tu conduis c'est pas la tienne. C'est clair qu'à partir du moment où on parle d'espérance, c'est toujours quelque chose qui est futur. Ici la Bible nous parle d'une bienheureuse espérance, ou une espérance bénie dans toute traduction. Il y a des choses qui nous appartiennent aujourd'hui, nous avons un héritage présent, mais aussi nous avons un héritage futur. L'héritage présent C'est quelque chose que tu peux voir se manifester dans ta vie. C'est quelque chose que Christ a mis dans ton compte en banque céleste le jour de ta nouvelle naissance. Et tu as simplement besoin de foi dans la parole de Dieu. Et le degré avec lequel tu jouis de cet héritage dépend du degré de ta foi. Par exemple, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, que tu ne pries pas en langue, ça a été mis à ton compte en banque céleste. Mais si tu ne le reçois pas, c'est parce que tu n'as pas la foi, alors que tu devrais être déjà dans cette dimension. Même chose pour la guérison divine. Même chose pour voir n'importe quelle réponse à notre prière. Nous savons que c'est le degré de notre foi qui va amener les choses à la réalité. La foi amène les choses à la réalité. Ça, c'est pour notre héritage présent. Et la Bible nous parle que nous avons un héritage à venir. Cet héritage à venir ne dépend pas de ta propre foi. C'est une espérance bénie, une espérance bienheureuse, une espérance future qui se passera malgré toi. Là, tant que tu veux voir des bénédictions qui te sont promises pour cette vie présente, cela dépend de ta foi. Cela ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de la souveraineté de Dieu. Un jour, j'ai entendu parler comme ça un homme qui était responsable d'une organisation, et il parlait d'une sœur qui était extrêmement malade et qui n'avait pas pu venir avec eux. C'était des gens qui étaient en visite ici, et elle avait un cancer, je crois, dans le nez, ou je ne sais pas trop quoi, enfin un truc terrible. Et alors cet homme disait: oui, elle n'a pas pu venir, on prie pour elle, mais la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain, etc., etc. Non, ça n'a rien à voir. La souveraineté de Dieu, c'est faire des choses malgré la volonté de l'homme. Et la souveraineté de Dieu se manifeste dans ses œuvres qu'il a faites, qu'il fait et qu'il fera. Mais dans les événements futurs, dans ton espérance future, il y a des choses que tu subiras. Évidemment, d'excellentes choses. Parce que Dieu n'a que d'excellentes choses pour nous. Mais le fait d'être né de nouveau t'a amené dans un voyage qui, au bout d'un moment, quand tu vas quitter ce corps, tu ne contrôleras plus, tu ne seras plus en contrôle des événements qui vont se produire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il y a des choses que Dieu a mis dans notre espérance future que nous vivrons tous ensemble. Vous savez, on se reverra, hein. Dis à ton voisin, oui, tous au subir, dis à ton voisin. Si quelqu'un part, si l'un d'entre nous, enfin, c'est sûr, les uns et les autres, on va partir un peu plus tôt ou un peu plus tard, d'accord? Moi, j'ai la foi pour mes 90 ans, maintenant, si t'as moins, c'est ton problème. Amen.
Donc,
un peu plus tard que 2050, je serai plus là. Mais on se reverra. On se reverra. Dans pas mal d'événements, on se reverra. On se reverra au tribunal de Christ, tribunal de récompense. On se reverra dans le millénium. Et on se reverra avec des nouveaux cieux et nouvelles terres ici, dans la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, on se reverra. Maintenant, tu dois pouvoir lui dire. T'as quelque chose à lui dire, hein. Oui, on se reverra. Si l'un part avant l'autre, on se reverra. Amen.
Amen.
C'est clair.
Amen.
On se reverra au ciel, mais pas seulement au ciel. Il y a plein de choses que vous allez découvrir que nous allons vivre dans ces événements prophétiques. Ce sont des choses arrêtées d'avance. Ta foi ne peut rien faire. Par contre, tu as intérêt à connaître ces choses. Il y a une chose que des gens disent. Maintenant, je n'ai pas d'appui scripturaire là-dessus. Mais de grands serviteurs de Dieu ont fait certaines expériences en étant enlevés au troisième ciel, ravis en esprit. Et ils ont tous dit la même chose.
Et
ils ont dit qu'au ciel, il y avait des gens qui continuaient leur apprentissage de la connaissance de Dieu. Pour la parfaire, pour devenir à l'état d'homme fait. Alors, je n'ai pas d'appui scripturaire pour ça. Mais c'est vrai que quand nous allons partir avec, je dirais, une certaine dimension spirituelle différente, un certain niveau spirituel qui va être différent les uns des autres. Vous êtes d'accord ? Alors il y a peut-être des choses, et certainement apparemment que le Seigneur va nous enseigner. Ils ont tous dit la même chose. Je vous dis, je n'ai pas d'appui scripturaire pour ça, mais la Bible quand même parle d'état d'homme fait. Parce que si tu te retrouves dans le millénium et à la fin du millénium, et tu verras qu'il va y avoir encore une petite bataille là-bas, le diable va chercher des histoires, et il va essayer d'investir le camp des saints. Alors tu vas pas être en train de dire, mais oulala, qu'est-ce qui va se passer après? Normalement tu devrais être renseigné correctement. Il y a plein de choses dans lesquelles nous devons être enseignés. Alors certains disent que tout ce qu'on n'aura pas appris, toute la connaissance de Dieu que nous n'aurons pas reçue ici, on va la recevoir là-haut. Et il y en a qui vont commencer à la crèche, je vous garantis. Donc il est préférable de connaître davantage le Seigneur ici, parce que d'abord Dieu veut que sa connaissance se répande au travers de toi et de moi. Dieu veut vraiment que la connaissance, sa connaissance se répande. Et malheureusement il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants. Donc Dieu va être le seul initiateur d'un certain nombre d'événements prophétiques. Il y a des choses qui vont être déclenchées, et on va voir quand est-ce qu'elles vont être déclenchées, parfaitement contrôlées par Dieu. Regardez ce que Paul disait dans 1 Thessaloniciens. On va étudier plusieurs fois Thessaloniciens, entre autres la première et la deuxième. Au chapitre 4, la première aux Thessaloniciens va nous renseigner beaucoup sur l'enlèvement de l'église. La deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2, va nous montrer vraiment clairement les deux retour de Christ et pourquoi Christ va revenir deux fois. Donc nous avons besoin de connaître un certain nombre de choses. Mais Paul au début, au chapitre 4 verset 13, fait une remarque et il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et là, bien sûr, il parle d'espérance bénie, c'est-à-dire d'événements, entre autres la résurrection d'entre les morts. Plus tout le reste qui va venir après. Dieu nous a fait un gros paquet cadeau au travers de notre salut, frères et sœurs. Vous verrez que le ciel n'est pas une finalité, loin de là. Le ciel sera un passage merveilleux, extraordinaire, dont tu es assuré, parce que quand tu vas quitter ton corps, tu vas aller au ciel si tu es né de nouveau. Mais ce n'est pas une finalité. Le ciel n'est pas une finalité. Dieu a un plan beaucoup plus important pour t'amener dans des événements extraordinaires, jusqu'à temps qu'il termine de réaliser le plan qu'il a pour l'humanité.
Vous
savez, Dieu, quand il veut quelque chose,
ce
n'est pas quelqu'un qui abandonne la partie. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit oh, j'abandonne, j'ai perdu. Oh non, pas du tout. Et pourtant, croyez-moi, comme nous allons le voir, il aurait pu dire cela et abandonner l'homme.
Mais
il n'a pas voulu faire ça. Parce que Dieu aime l'homme. Et il a quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il a un avenir d'éternité absolument fabuleux.
Et
la Bible nous révèle un certain nombre de choses.
Donc
nous allons étudier. Mais la Bible nous dit clairement, ne soyons pas ignorants. Pourquoi ? Parce que l'ignorance pose un problème. L'ignorance amène les gens à penser des choses qui ne sont pas scripturaires, donc à croire des choses qui ne sont pas scripturaires, donc à parler des choses qui ne sont pas scripturaires. Ce qui fait qu'après, des gens sont troublés. Par exemple, les Thessaloniciens, l'épître aux Thessaloniciens, c'est la première épître qui a été écrite. Et Paul a écrit, parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans une église qui était vraiment complètement immature, où il était resté 3 semaines. Il avait été obligé de partir parce qu'il était persécuté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Thessaloniciens se sont fait bourrer la tête avec des gens qui racontaient tout et n'importe quoi. Donc Paul va devoir écrire cette première aux Thessaloniciens pour les rassurer, parce que les gens commençaient à dire, première et deuxième aux Thessaloniciens, les gens commençaient à dire mais Jésus est déjà revenu. C'est pour ça que vous êtes dans les persécutions, c'est pour ça qu'il y a des moments difficiles que vous vivez. Et les gens ont été très troublés à Thessalonique à cause justement de cette ignorance. Bon, dans la deuxième, il va plutôt parler justement de la différence entre ce premier retour et le deuxième retour de Christ. En leur montrant qu'il va se produire des événements, mais que d'abord l'église doit être enlevée pour qu'elle soit épargnée de 7 ans de tribulation, mais que Jésus va revenir une deuxième fois. Et entre temps, Paul explique qu'il va y avoir un antichrist qui va venir. On étudiera tout ça en détail. Il va y avoir des choses terribles sur la terre, mais il explique une chose. Il explique de toute façon, vous ne vivrez pas ça. Et de toute façon, l'antichrist ne peut pas être là, il n'est pas encore là.
Donc,
ne vous affolez pas. Cette église a été troublée à cause d'une fausse doctrine. Vous savez, souvent, il y a des églises locales, comme elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Le diable envoie des gens, et malheureusement, ils travaillent au travers parfois de gens qui sont de faux serviteurs, ou au travers de chrétiens qui veulent prendre un peu un contrôle dans des églises qui sont extrêmement mal intentionnés et qui sèment des mauvaises graines, ce qui fait qu'au bout d'un moment les gens sont extrêmement troublés. Et quand les gens sont troublés, eh bien les gens sont instables, parce que les mauvais esprits commencent à travailler sur ces personnes-là. Et il n'y a que la vérité qui peut permettre aux gens de rester vraiment au milieu de la piste. Ce qui permet vraiment de marcher avec le Seigneur et d'éviter bien des pièges de l'ennemi. Alors nous verrons que pour nous, comme je vous le disais, enfants de Dieu, les événements prophétiques sont excellents. Mais par contre, pour ceux qui sont rebelles à Dieu, ce seront des événements prophétiques horribles. Alors pourquoi est-ce que la Bible nous donne de voir beaucoup plus loin? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des richesses extraordinaires. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle d'événements prophétiques? C'est très simple. D'abord, comme le disait Paul ici, c'est qu'on puisse se réjouir et non pas s'attrister pour ceux qui meurent en Christ. Mais aussi, le deuxième côté, c'est de prévenir les gens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur dire, vous savez, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous a créé. C'est Dieu. Et ce Seigneur, il veut sauver votre vie du jugement qui arrive. La Bible est claire. Regardons ensemble dans Hébreux 6. Vous savez, on a l'amour de Christ à annoncer. Et on a aussi à dire aux gens, attention, il y a un jugement qui va tomber sur vous si vous n'acceptez pas Jésus. Mais ça, c'est clair. Nous devons parler du jugement à venir. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté. On doit dire aux gens, vous savez, si vous ne vous repentez pas, il y a un jugement. La colère de Dieu est sur vous et vous allez subir un jugement. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1, et on va lire, c'est le verset 2 qui va m'intéresser là. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, c'est-à-dire la maturité, sans de nouveau poser le fondement à la repentance aux œuvres mortes, à la foi en Dieu, à la doctrine des baptêmes, à l'imposition des mains, à la résurrection des morts et au jugement éternel.
Nuko rero turengane ivya mbere bya Kristo twigira imbere dushike ku byo gutunganywa gose twaye gusubira gushira hitanguriro byo kwihana ibikorwa by'impfagusa no kwizera Imana no kwigishwa ibyo kubatizwa n'ibyo kurambika kw'ibiganza n'ibyo kuzuka kw'abapfuye n'ibyo gucigwa kw'iteka kw'ibidashira.
Donc la Bible parle bien d'un jugement éternel.
Aha biravuga ngo gucibwa urubanza ibyo bidashira.
Et nous devons annoncer l'amour de Christ.
Aha nibyo iyo tuvuga ubutumwa dukwiye kuvuga urukundo rwa Kristo.
C'est-à-dire que Jésus est Dieu le Fils qu'il est venu pour sauver ce qui était perdu.
Christ ari umwana w'Imana aje gukiza abari barazimiye.
Et que ceux qui se repentent
peuvent
être graciés. Ça, nous devons l'annoncer.
Mais
nous devons dire aussi aux gens, il y a un jugement qui vient. Pour l'instant, la colère de Dieu est sur toi. Tu marches dans tes péchés. Mais si tu ne veux pas avoir ce jugement sur toi qui va s'appliquer à toi, alors tu te repentes. Il faut que tu acceptes
Christ.
Donc pour nous, nous devons savoir que les prophéties de la Bible, les prédictions, c'est-à-dire ce qui est annoncé d'avance, c'est pour que nous soyons informés de ce qui va se passer pour nous. Par contre, nous devons aussi prévenir qu'il va se passer des choses extrêmement difficiles pour les gens qui ont refusé Jésus et qui sont rebelles à Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu nous donne des événements prophétiques qui sont arrêtés d'avance, que nous devons connaître, que nous devons savoir aussi expliquer. Et bien évidemment, nous devons comprendre là où nous sommes actuellement. Parce que le temps passe et dans ce temps, Dieu a découpé des tranches que la Bible appelle dispensation. Donc tout ça c'est très clair. Mais là actuellement nous sommes dans une dispensation. Et
il
faut que nous sachions discerner les temps et les moments. Regardons Hébreux chapitre 1. Au verset 1 et au verset 2. C'est intéressant parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux va nous montrer quelque chose à propos de la période dans laquelle nous sommes. Il dit, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, dans ces derniers jours. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes.
Muri imisi iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose niwe yahaye kurema isi.
Alors vous voyez qu'au verset 1, l'auteur de l'épître aux Hébreux, que je pense être Paul, dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Ça sous-entend qu'il y avait plusieurs choses que Dieu a dites à des temps particuliers, des temps divers.
Et
là, au verset 2, il nous dit: mais Dieu, dans ces derniers jours, et dans ces derniers jours, c'est une expression qui est utilisée pour le temps où nous sommes. Temps donc dispensation où nous sommes. Les derniers jours. Quand vous voyez cette expression dans le Nouveau Testament, ça parle du temps de l'Église. Regardons ensemble. Pierre dans Acte 2. Alors qu'il va, je dirais, prêcher à ces inconvertis qui étaient devant lui, le jour de la Pentecôte, il va utiliser cette expression. Regardons, en reprenant d'ailleurs une prophétie de Joël, il est dit au verset 16, acte 2, juste après que les gens ont fait des commentaires sur le Saint-Esprit qui était tombé sur eux. Mais c'est ce qu'il a été dit par le prophète Joël: dans ces derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair, etc. Donc la Bible nous parle de ces derniers jours, les derniers jours. Et quand la Bible utilise cette expression, c'est pour nous l'Église, le temps de l'Église. Donc à chaque fois que vous voyez cela, c'est le temps de l'Église. Alors maintenant on va donner une définition du mot dispensation, parce que je voulais j'en ai parlé plusieurs fois, je l'ai utilisé plusieurs fois, et on va regarder un texte dans Ephésiens chapitre 3 qui va nous parler de dispensation en utilisant le mot dispensation. Donc Ephésiens chapitre 3, il est dit: à cause de cela, verset 1, pardon, moi Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous païens, si du moins vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce qui m'a été accordée pour vous.
Et
après, il va parler de ce que c'est que cette dispensation.
Il dit:
c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On va t'expliquer tout ça. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, par ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle les richesses insondables du Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses.
Barakuba ku murongo wa kana rabandango namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzibanga rya Kristo ivyo abana babantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nkuko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpwemu yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa basangiye natwe umubiri umwe basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo Yesu kubwo ubutumwa bwiza nacitse umukozi wabwo nkuko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri ubwo nahawe nkuko ubushobozi bwayo bukora je wuri uwo mu nyuma yabera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagiraho rigera.
Donc au verset 2 et au verset 9,
uravye umurongo wa kabiri ugashita no kucenda,
il y a un mot qui a été utilisé en grec et qui est traduit par dispensation, que je vais vous expliquer dans quelques minutes.
Ijambo ryavuzwe basobanura ngo dispensation ngiye kubasobanura mu kanya kagiye kuza.
Et en fait, ce mot grec,
iri jambo ry'ikigiriki rero,
c'est oikonomia. En fait, ça a donné en français économie, hein.
Ni jambo bakwemwo oikonomia byazanye mu gifaransa économie ubutunzi cyangwa ibindi sinduko mu bisubira mu kirundi.
Et qu'est-ce que c'est la gérance.
Aho umuntu yovuga ko ari gutunganya
l'administration.
gutwara kugaba
l'économie des biens d'une maison ou d'une famille
kugaba no gutunganya kurabisohoka n'ivyinjira by'ibintu byo mu muryango
pendant un temps particulier
mu gihe kanaka.
En fait, c'est une gestion pendant un temps.
Une
façon dont on va gérer quelque chose pendant un temps. Et là, Paul en parle. Il parle de la dispensation de la grâce. Donc la dispensation, l'économie, la façon dont la grâce est gérée, entre guillemets, et administrée.
Dispensation,
et nous savons que ce temps particulier où la grâce nous est apportée,
et
bien c'est la grâce que nous avons en Christ.
Et
nous savons que c'est le temps, bien sûr, de l'Église.
Donc
un peu plus tard, au verset 9, il parle de la dispensation du mystère. On expliquera un peu cela aussi. Mais en résumé, une dispensation, donc, pour prendre des mots un peu plus simples. Donc une dispensation, c'est une période de temps, ou une saison, si vous préférez, arrêtée par Dieu, c'est-à-dire que Dieu a choisi. Donc une période de temps, une saison, arrêtée, choisie par Dieu, où Dieu va faire une alliance avec un ou des êtres humains, ou avec un peuple, donc en général. Et en fait, il va prévoir par cette alliance comment l'homme va pouvoir s'approcher de lui. Donc dispensation, c'est donc un temps, une saison si vous préférez. Donc il y a un début, qui a une fin, qui est arrêté par Dieu, et son objectif, c'est de faire alliance avec les hommes pour que l'homme puisse s'approcher par différents moyens que Dieu a prévus, bien sûr, donc bénéficier de la bonté, de la grâce, des bénédictions du Créateur à partir du moment où l'homme rentre dans ses alliances.
Donc,
à ce moment-là, il en bénéficie. Et pendant ces dispensations, eh bien l'administration est faite par les anges et par les hommes. Dieu détermine ce qu'il va y avoir comme bénéfice dans cette dispensation. C'est Dieu qui donne les règles. L'homme se soumet à ces règles et peut en bénéficier.
Ou
l'homme viole les règles et est obligé de sortir. Ou au contraire, s'il ne suit pas les règles de Dieu, il ne peut pas entrer. Exemple simple, nous sommes dans la dispensation de la grâce où Dieu répand sa grâce aujourd'hui sur les hommes. Nous bénéficions de cette dispensation, de l'alliance de cette dispensation, parce que nous avons entendu le message de Dieu.
Et
Dieu a dit, voilà, l'homme peut être gracieux, je lui assure l'éternité, mais il doit se repentir
et
il doit croire dans mon fils. Si on fait ça, alors que nous sommes depuis 2000 ans dans la dispensation de la grâce, tout homme qui a fait ça est entré dans le bénéfice de cette dispensation. Tout homme qui refuse de se repentir ne peut pas bénéficier des bénéfices de la dispensation. Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui veut vivre dans la loi de Moïse, il essaye de venir avec des animaux, de sacrifier des animaux, etc.,
etc.,
il ne peut pas bénéficier de la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. C'est pas possible. Il n'en bénéficie pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus sous la loi. La dispensation de la loi, nous allons voir,
c'est
terminée à la croix du calvaire. Donc vous allez apprendre pas mal de choses parce que vous avez besoin de bien comprendre. Alors les érudits, ceux qui ont fait beaucoup d'études sur l'eschatologie en général, sont d'accord pour dire une chose, c'est qu'il existe sept dispensations, et on on va donc les expliquer d'abord brièvement. Et pour celles qui vont se produire, eh bien, nous parlerons, enfin, oui, pour celles qui vont se produire plus précisément, eh bien, nous en parlerons plus en détail. La première dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. C'était quoi? L'innocence, c'était Adam et Ève plantés dans le jardin. Donc Dieu commence une alliance avec Adam et Ève. Et ça commence dans Genèse 1, au verset 28 à 30. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu donc les met dans le jardin et il va leur donner des termes, les termes de cette alliance, et ils peuvent vivre tant qu'ils ne violent pas l'alliance, ils peuvent rester dans cette dispensation. Et il est dit, Dieu les bénit l'homme et la femme, donc Adam et Ève, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, ce qui rampe sur la terre, ce qui a souffle de vie, je donne l'herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Alors Dieu vit que ce qu'il avait fait, voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Ngomazi Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzuri isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga nibiguruka mu kirere nibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti henda bahaye ibyatsi byose byama utubuto biri mu isi yose n'igiti cyose cama ibyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kujya byanyu, kandi bikoko byose byo mu isi nibiguruka mu kirere byose nibyikwega hasi byose biri mu bugingo bihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ivyo kujya byavyo bibakuno.
Au verset 15 et jusqu'à 17 du chapitre 2, Dieu va leur donner aussi des termes de leur alliance. Pour l'instant, Dieu leur avait dit la chose suivante. Je vous ai créé. Maintenant, vous êtes en relation avec moi. Tout est parfait entre vous et moi. Tout est parfait avec ma création visible. Vous devez vous reproduire. Vous devez remplir la terre. C'était le plan de Dieu originel. Et Dieu leur a dit, maintenant, vous dominez sur toutes mes œuvres.
J'ai tout créé.
Je vous donne la gestion. On parle de dispensation. Je vous donne la gestion. Vous dominez sur toute ma création. Je vous donne toutes choses. Vous vous en emparez. Je vous donne le droit légal de jouir de toute cette création. Monde spirituel, relation avec Dieu, voir les anges, connaître le monde spirituel de Dieu, bien sûr. Adam et Ève n'avaient aucun problème. Jouir pleinement de la création visible, Adam et Ève n'avaient aucun problème. C'était leur alliance. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils avaient envie de faire. Dieu leur donne juste quelque chose. Au verset 15, 16 et 17, à faire et à ne pas faire. En supplément, il leur dit, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Garder, ça veut dire qu'il y avait un prédateur quand même quelque part. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Guhoraho Imana ku mirongo wa 15 ajana uwo muntu amushira muri iyo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame bisugura ko hariho umuntu ashobora kuza kuritera canke ikintu. Guhoraho Imana abarira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iyo tongo ukijye kukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzo kijye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza.
Aujourd'hui la culture c'est quelque chose de difficile.
Uyu munsi kurima turazi ko bitoroshe.
Mais à l'époque apparemment c'était pas difficile.
Ariko biravye iki gihe umenga ntivyari bigoye.
Je ne sais pas comment Adam et Eve faisaient, mais apparemment ils se fatiguaient pas. parce que c'est seulement après la chute où Dieu dira c'est avec de la peine et avec la sueur de ton front que tu vas tirer ta subsistance du sol. Alors je ne sais pas trop comment il faisait. Peut-être qu'il faisait hop comme ça et tout poussait tout seul, j'en sais rien. En tout cas, il ne se fatiguait pas, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est difficile de cultiver, nous sommes d'accord, parce que le sol a été maudit, nous le savons.
Et
Dieu leur dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Il y avait
cette interdiction. Donc il y avait des choses qu'ils devaient faire, des choses qu'ils ne devaient pas faire. Et Dieu leur dit, tu vas mourir, donc, mais littéralement, c'est en mourant, tu mourras si tu en manges. Donc si tu désobéis, tu vas mourir spirituellement. Et alors, tu vas mourir physiquement après. Tout ça, c'est des avertissements de Dieu. Mais
ce
n'était pas son plan. Mais Dieu, dans toutes les alliances qu'il va faire avec les hommes, il va
éclairer.
Il va donner des privilèges. Mais il y a aussi des obligations. Une relation, c'est toujours comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une relation, il n'y a que des privilèges.
Sinon,
ce n'est pas une relation. Vous
ne
pouvez pas non plus être préprogrammé pour une relation. Sinon,
ce
n'est plus une relation. Par exemple, avec une machine, vous ne pouvez pas avoir de relation. Vous lui dites ce qu'elle doit faire, vous avez des boutons, et si elle marche correctement, elle doit obéir. Mais elle n'obéit pas parce qu'elle a un choix. C'est parce qu'elle est programmée comme ça. Alors que l'homme est un être humain, créé à l'image de Dieu, qui a un choix. Et Dieu les plaçait devant des choix. Dans chaque dispensation, l'homme est placé devant un choix. Et malheureusement, évidemment, ils vont chuter, nous le savons. Au chapitre 3, nous savons qu'Adam et Ève vont écouter le diable. Le diable va se déguiser, non pas s'incarner, je vous le rappelle, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Parce qu'Adam et Ève voyaient dans le monde spirituel. Donc le diable n'avait pas besoin de s'incarner, il n'aurait pas pu, de toute façon, il n'a pas la capacité. Et en fait, Satan prend une autre forme, la forme d'un animal, donc facile.
Il
voit ça dans le monde spirituel, ils se font rouler. Ils acceptent de désobéir au Seigneur. Et là, ça va être la fin de la première dispensation. On va découvrir que tout le temps, Dieu va initier la dispensation. Mais souvent, c'est l'homme qui va mettre un terme à cette dispensation par sa désobéissance. Mais Dieu va toujours initier les dispensations parce qu'il veut toujours qu'il y ait quelque chose, une certaine approche de l'homme vers lui. Parce que Dieu aime l'homme et il a toujours pourvu à un moyen pour que l'homme puisse avoir soit une relation, une certaine approche de lui. Alors combien de temps cette dispensation de l'innocence a duré? Eh bien, on ne le sait pas. Mais je pense qu'elle a duré très peu de temps. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas eu d'enfants dans le jardin. Et donc il faut 9 mois pour faire un enfant, me semble-t-il. Alors j'espère que vous croyez plus ces fables non plus stupides qu'on entend parfois sur Adam et Ève, où des gens ont dit, ah, c'est parce qu'ils ont eu un rapport sexuel ensemble que ça, c'est ça que ça veut dire d'avoir mangé de l'arbre. Non, parce que Dieu leur avait demandé de se reproduire, hein, de procréer, et c'était l'ordre de Dieu, donc c'était pas un péché, c'était clair. Alors, au chapitre 5, verset 3, la Bible va nous dire quelque chose d'important. Il va nous dire qu'en fait, Adam Regardez, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Mais là, ils étaient déjà dehors du jardin. Donc, on sait une chose. Donc, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils ont mis fin à la dispensation de l'innocence par leur péché. Ensuite, à l'extérieur du jardin d'Éden, ils ont eu deux enfants d'abord, Cain et Abel. Et on
n'a
toujours pas de date pour ça. Ça, c'est au chapitre 4. Et on est déjà dans une autre dispensation qui s'appellera la conscience, on va en parler. Par contre, on sait que quand ils ont eu 130 ans, là ils ont eu un autre enfant, Seth, c'était pour remplacer Abel que Cain avait tué. Donc il y a une chose dont on est sûr par contre, c'est que Adam et Ève sont restés moins de 130 ans dans le jardin. Ça, c'est personnellement, je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais ça doit vraiment être une très courte durée. Je vous dis, d'après ce qu'on peut voir, ils n'ont pas eu d'enfants dans le jardin. On n'a pas d'événements spéciaux à part cette tentation diabolique. Est-ce qu'ils sont restés quelques jours, quelques semaines, quelques mois? J'irai même pas jusque là peut-être. Et quelques années, certainement encore moins. Donc on sait que cette dispensation a duré très peu de temps. C'était le paradis sur terre, mais l'homme a tout gâché. Et Dieu va être obligé d'initier une autre dispensation qui s'appellera la dispensation de la conscience, et que nous étudierons la prochaine fois avec les autres dispensations d'une manière générale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.